Priorité santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une maladie peu connue. Son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose. Pourtant, elle touche 1 à 2% de la population mondiale, 1 million de personnes rien qu'en France. Le vitiligo, c'est son nom, est une maladie de la peau qui se manifeste par des taches de couleur ivoire sur le visage, le corps, les articulations ou encore les parties génitales. Contrairement aux idées reçues, le vitiligo n'est pas douloureux, ne gratte pas et ne brûle pas. Cette dépigmentation de la peau n'est pas non plus contagieuse et encore moins le signe d'un envoûtement. On le considère souvent comme un simple problème esthétique alors que c'est un vrai problème de santé qui a un impact sur la qualité de vie et qui entraîne souvent une souffrance psychologique liée à la méconnaissance, aux fausses croyances et au regard malveillant de ceux qui jugent sur les apparences. D'ailleurs, des études ont montré que le retentissement psychologique du vitiligo était comparable à celui de la dépression ou même de certains cancers. Alors, que sait-on de cette pathologie? Comment la surmonter? Quels sont les progrès thérapeutiques? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le professeur Thierry Passeron, professeur de dermatologie dans le service de dermatologie du CHU de Nice et chef d'une équipe de recherche de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Nous serons également en ligne avec le professeur Ousmane Faye, professeur de dermatologie, directeur de l'hôpital de dermatologie de Bamako et ancien vice-doyen de la faculté de médecine. Et à la fin de cette émission, bien nous retrouverons le docteur Loïc Eppelboin, infectiologue au centre hospitalier André Rosemont, c'est à Cayenne en Guyane, pour faire le point sur la situation sanitaire en Guyane justement, où le nombre de personnes atteintes par le Covid-19 augmente considérablement.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Thierry Passeron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en 2016, je vous avais déjà reçu dans cette émission, et vous nous aviez confirmé que cette maladie restait peu connue malgré sa prévalence. A-t-on un petit peu avancé dans ce domaine? Est-ce que le grand public connaît mieux cette maladie?
Alors, il y a eu quand même des progrès dans la connaissance du public, notamment par certaines personnalités. On pense tous au mannequin qui a fait beaucoup parler d'elle et du vitiligo, et je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a encore beaucoup de méconnaissance sur la maladie, beaucoup de personnes qui pensent que c'est psychologique, on peut rien faire, alors qu'on a vraiment des possibilités thérapeutiques et que l'on comprend bien mieux comment fonctionne cette maladie.
Mais c'est ça, je vous demande ça parce qu'en fait, c'est essentiel de faire connaître la maladie pour lutter, comme vous le disiez, contre toutes ces idées reçues et la stigmatisation des patients notamment.
Tout à fait. Il y a encore beaucoup d'idées reçues. Alors certaines de, par exemple, c'est contagieux. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout une pathologie contagieuse. C'est héréditaire. Non, le vitiligo n'est pas une maladie héréditaire. Ça touche à peu près 1 à 2% de la population mondiale, ce qui est quand même très très important. Et on sait que lorsque son père, sa mère, son frère, sa sœur a un vitiligo, le risque augmente à 5 à 8%, ce qui est plus que 1 à 2%, mais ça montre quand même que, par exemple, les enfants des personnes atteintes ont quand même plus de 90% de chances de ne jamais développer le vitiligo. Donc, comme j'explique souvent à mes patients, on ne transmet pas la maladie comme on transmet le daltonisme ou l'hémophilie. En fait, on transmet un terrain qui éventuellement prédispose à développer la maladie. Autre idée reçue, c'est une pathologie bénigne. Alors oui, c'est une pathologie bénigne dans le sens où les personnes qui sont touchées ont une espérance de vie tout à fait normale, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, la qualité de vie et l'impact de la maladie est très important. Vous en parliez en introduction, c'est aujourd'hui bien démontré et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre et aider nos patients qui sont en souffrance.
C'est ça, avoir une aide psychologique, on va en reparler évidemment. Alors, on parle de vitiligo, mais il en existe des différents types. Quels sont-ils ?
Alors, ce qu'il faut surtout différencier, c'est les deux grands types, c'est-à-dire le vitiligo classique, qu'on appelle non segmentaire. C'est le vitiligo qui va toucher de façon assez symétrique les deux mains, les deux pieds, les deux parties du visage. Une forme de vitiligo qu'on appelle le vitiligo segmentaire, qui débute dans la majorité des cas dans l'enfance, mais qui peut débuter à n'importe quel âge, et qui va, comme son nom l'indique, toucher qu'un segment du corps, par exemple, que la partie droite du visage, que le bras gauche. Dans la plupart des cas, ce vitiligo segmentaire va rester sur le segment du corps et il ne va pas y avoir de développement de taches à d'autres endroits du corps. C'est important de le savoir puisque dans plus de 90% des cas, ce vitiligo va rester uniquement segmentaire. Il n'y a que uniquement dans 10% des cas où on va avoir une association avec un vitiligo, on va dire classique, qui peut toucher les autres parties du corps. C'est aussi important au niveau thérapeutique parce que ces vitiligos segmentaires, en cas d'échec des traitements médicaux, on en reparlera peut-être, peuvent être une bonne indication des traitements chirurgicaux, c'est-à-dire de faire des greffes, amener des cellules pigmentées à l'endroit qui souffre, alors que dans la plupart des cas, les greffes ne sont pas une bonne indication pour les vitiligos, on va dire, classiques.
Qu'est-ce qui est à l'origine du vitiligo ? On sait aujourd'hui que ce n'est pas une maladie psychosomatique, par exemple.
Clairement, et ça c'est vraiment très très important puisqu'il faut arrêter de dire aux personnes,
c'est à cause de votre stress, c'est de votre faute en gros.
Exactement, et malheureusement on le voit en médecine, dès qu'on a quelque chose qu'on comprend pas bien ou qu'on a du mal à traiter, c'est rapidement une maladie psychosomatique. Or, le vitiligo, c'est clairement une maladie auto-immune, c'est le système de défense qui se trompe et qui va attaquer et détruire les mélanocytes qui sont les cellules qui fabriquent la pigmentation de la peau, et donc on connaît bien. Et par contre, il peut y avoir, comme dans toute maladie auto-immune, un déclenchement par un stress au sens médical du terme. Ça peut être un stress psychologique important, un stress professionnel, un stress chirurgical, une grossesse, une ménopause, une femme. Tout ça sont des facteurs possiblement déclenchants ou aggravants des poussées. Mais en fait, on sait aujourd'hui que lorsqu'on est stressé, encore une fois au sens général, il va y avoir une production de protéines inflammatoires qui vont faire que sur un terrain prédisposé, il y en a un qui va faire une poussée de psoriasis, un autre d'eczéma et un troisième de vitiligo. Donc oui, il peut y avoir un déclenchement par un stress, mais j'allais dire malheureusement, c'est pas si on prend en charge le stress, ça n'a jamais permis d'améliorer le vitiligo. Donc oui, s'il y a un retentissement psychologique, on peut faire un soutien psychologique, mais un soutien psychologique ne permettra jamais d'améliorer la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et il faut surtout arrêter de stigmatiser, de culpabiliser les personnes et lorsque ce sont des enfants, de culpabiliser les parents qui penseraient peut-être avoir fait une erreur quelque part dans leur éducation. C'est pas du tout le cas.
Professeur Thierry Passeron, on va accueillir un premier auditeur, c'est Fabien, 37 ans, qui nous appelle de Charente-Maritime, c'est à l'ouest de la France. Fabien, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Priorité Santé. Vous, Fabien, personnellement, dans quelles conditions vous a-t-on diagnostiqué votre vitiligo ?
Alors moi, j'avais 20 ans et j'ai une tache blanche qui est apparue au coin de la bouche, donc j'ai été voir mon généraliste, mon médecin habituel, qui a pensé dans un premier temps à une pathologie de type plutôt mycose. Mycose, donc j'étais traité pour ça. Ça a pas donné de résultat. Je suis retourné le voir et là je suis parti sur une crème en fait à base de cortisone, qui a, on va dire, ralenti un peu la chose, mais qui l'a pas soigné non plus. De là, on m'a envoyé voir un dermatologue, et c'est ce dermatologue, en fait, le spécialiste, qui a posé le diagnostic. Alors, il faut...
Et comment vous avez réagi, justement, quand il vous a annoncé ça, le vitiligo ?
Alors, sur le coup, moi, je ne savais pas ce que c'était. Quand on me l'a annoncé, je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Alors, donc, j'avais 20 ans, donc c'était déjà il y a quelques années en arrière.
Vous en avez 37 aujourd'hui.
Bien moins médiatisé, oui voilà. Et c'était bien moins médiatisé, on va dire, que maintenant. À l'époque, il n'y avait pas eu de mannequin ayant du vitiligo. Donc voilà, c'est une maladie qui n'était pas connue. Moi, on m'annonce vitiligo, je ne connais pas. Donc le médecin commence de m'expliquer. Et donc à l'époque, en gros, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça risquait de s'étendre. Et qu'en fin de compte, il n'y avait pas vraiment de traitement, il n'y avait pas de prise en charge, il n'y avait rien de bien sérieux pour lui à l'époque, et uniquement en fait se protéger du soleil. Et la petite anecdote, c'est qu'en fait, je suis reparti de chez mon dermatologue avec par contre plein d'échantillons de crème solaire
pour vous protéger du soleil.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc voilà. Et donc à cette période-là, donc j'avais une petite tache au coin de la bouche, et puis assez rapidement quand même, moi ça a évolué quoi.
Alors très vite. Fabien, restez avec nous. Hein, mais justement, oui. Je voudrais revenir avec le professeur Thierry Passeron sur le diagnostic de la maladie. Est-ce que c'est difficile à diagnostiquer? Dans un premier temps, Fabien va se rendre chez son généraliste qui pense que c'est une mycose. Est-ce qu'on peut confondre vitiligo et mycose? Qu'en est-il du diagnostic, professeur Thierry Passeron?
Alors, en général, le diagnostic est assez facile dans le sens où le vitiligo donne des plaques qui sont complètement blanches. Les mycoses et les maladies inflammatoires autres vont donner un éclaircissement parfois de la peau, mais jamais un aspect complètement blanc. Lorsque c'est complètement blanc, il peut y avoir d'autres diagnostics, mais il faut penser d'abord au vitiligo. Après, c'est toujours plus facile après, et puis nos collègues généralistes doivent faire le diagnostic de beaucoup de choses, mais un spécialiste,
ils sont pas spécialistes,
un dermatologue, voilà, un spécialiste doit pouvoir faire le diagnostic, et on va dire sur peau très claire, parfois c'est un peu plus difficile, mais dans tous les cas, il faut s'aider pour faire le diagnostic d'une lampe de Wood, qui est une lampe en fait qui va faire du bleu profond et qui va nous permettre de bien voir. Et en fait, lorsqu'on a des plaques de vitiligo, en lampe de Wood, ça apparaît très très blanc, blanc ivoire. Mmh. Et donc là, on a le diagnostic et c'est relativement simple de faire le diagnostic. Si vous permettez, je voudrais juste rebondir sur ce que disait votre...
Ah mais je vous en prie, vous êtes là pour ça.
parce que c'est exactement ce qu'on entend tous les jours, hein, parce que je vois tous les jours des patients qui ont du vitiligo. Et qu'on entend encore malheureusement maintenant. Aujourd'hui, même si on ne peut pas encore traiter toutes les personnes, notamment sur le visage, je le disais, on a 7 à 8 chances sur 10 de repigmenter complètement ou quasi complètement. Donc oui, aujourd'hui, avec les traitements actuels, on peut déjà faire des choses dans le vitiligo, notamment pour certaines zones et notamment le visage. Et en plus, derrière, il y a des nouveaux traitements qui sont dans le cadre d'essais thérapeutiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on dit trop souvent aux personnes « Ouh là là, vous avez un vitiligo, il faut vous protéger du soleil parce que vous allez faire un cancer de la peau ». Or, il a été montré en 2013 dans une grande étude européenne, confirmé en 2014 dans une grande étude américaine, et maintenant on a des études asiatiques qui montrent la même chose. On sait que les personnes qui ont vitiligo ont en fait moins de risques de faire des cancers de la peau que la population générale. Et notamment 3 fois moins de risques de faire un mélanome, et le mélanome c'est le cancer du grain de beauté. Et comme je dis souvent, en fait, le système immunitaire dans le vitiligo, ben, il attaque les gentils mélanocytes, donc quand ils voient un méchant mélanocyte, ils s'en occupent encore plus. Donc il ne faut pas avoir peur des cancers de la peau. Même si les personnes ne sont pas complètement immunisées, en tout cas, le risque est moins important que dans la population générale. Et sans soleil, sans UV, on ne peut pas repigmenter. Donc si on ne s'expose pas au soleil, on ne peut pas repigmenter.
C'est important de le dire. Fabien, je reviens vers vous. Oui. Est-ce que vous avez eu un moment dans votre vie, est-ce que vous avez été victime de stigmatisation? Est-ce que ça a été difficile à vivre, le vitiligo?
Alors moi, il a été difficile à vivre parce que c'est arrivé en fait quand j'avais 20 ans. Donc... c'est l'époque où on sort, on a envie de plaire, de séduire.
Début des relations amoureuses, est-ce que ça a eu un impact justement?
Alors en fin de compte, je dirais que ça a eu un impact en fin de compte uniquement sur moi. Alors je vais expliquer pourquoi, c'est que moi j'ai la peau très claire déjà à la base. Et surtout, moi mon vitiligo rapidement, il s'est vraiment très très étendu.
Au fait, vous êtes devenu complètement blanc, hein, c'est ça ce que vous nous avez expliqué?
Pratiquement, ouais. Pratiquement, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis habillé, si j'ai des manches, si j'ai un pantalon, mon vitiligo, il est invisible. En fait, je suis juste un peu plus pâle, on va dire, que la normale. Et parce que donc moi, au niveau du visage, en fait, je suis complètement dépigmenté. Au niveau des mains, c'est à peu près la même chose. Et puis, en fin de compte, il me reste, on va dire, quelques vestiges de pigmentation sur les jambes ou sur le haut des bras, et qui vont se voir, du coup, uniquement si je vais au soleil, par exemple, pendant la période estivale, parce que, du coup, je vais bronzer sur ces endroits-là, et du coup, ça va faire un contraste. Mais sinon, par exemple, au niveau du visage, je bronze plus du tout, donc, du coup, j'ai aucune tache, je suis juste pâle.
Donc du coup, finalement, c'est pas stigmatisant car les gens ne savent pas. Les gens pensent que vous êtes pâle, mais ne savent pas que c'est du vitiligo. Donc ça a pas été un problème pour vous, c'est ça?
Alors là,
vous aviez l'air d'être dans la nuance.
Vitiligo, oui, quand je vous décris mon vitiligo, là c'est aujourd'hui à 37 ans. Hmm. C'est-à-dire que je suis pas non plus devenu entre guillemets tout blanc du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai eu quand même une période où j'ai eu une tache sur le visage qui grandissait. Hein. qui grandissait petit à petit et qui était visible parce que le reste du visage bronzé, par contre, donc ça faisait vraiment un contraste. Et du coup, par exemple, moi, j'ai déjà eu des collègues de travail qui regardaient ça un peu d'un drôle d'œil. Et un jour, j'en ai un, moi, qui m'a pris un pas, en fait, et qui m'a demandé si j'avais pas une maladie grave. En gros, il avait peur, pas pour lui, mais il avait peur pour moi, en fait, que j'ai attrapé un truc grave sans le savoir, peut-être un cancer de la peau, peut-être. Et moi, je me souviens, à l'époque, il m'avait parlé de sida, quoi. Mmh. Donc, voilà, le regard des gens qui sont, on va dire, dans l'ignorance, du coup, peut être...
On en parlait avec le professeur Thierry Passeron, hein, cette méconnaissance entraîne voilà une stigmatisation et toutes sortes d'idées reçues. Juste Fabien, est-ce que vous avez suivi des traitements ou est-ce que vous avez négligé les traitements? Comment expliquez-vous que vous soyez tout blanc, comme vous l'avez dit aujourd'hui?
Alors moi, à l'époque, ce qui s'est passé, j'habitais pas en Charente-Maritime, j'habitais ailleurs, j'étais en milieu rural. C'était aussi il y a quand même un petit paquet d'années.
Avec un problème d'accès aux cabines d'UV, c'est ça?
Oui, il y avait un peu de ça, parce que moi, quand j'avais commencé à me renseigner sur les traitements qui étaient possibles, tout de suite, voilà, c'était très loin de chez moi, c'était presque infaisable, on va dire. Et puis surtout sans vraiment de garantie de résultat, parce que moi, entre-temps, j'avais vu d'autres dermatologues et qui m'avaient quand même mis en garde. Alors le professeur pourra peut-être confirmer, mais moi, en gros, ce qu'on m'avait dit, c'est que les traitements actuels à cette période-là, allait pouvoir traiter les symptômes, c'est-à-dire les taches blanches, mais pas le problème de fond. C'est-à-dire que je risquais de m'engager dans un processus dont déjà les résultats étaient pas sûrs à 100%, vu. Alors ça, après, c'est au cas par cas, moi, parce qu'il était déjà bien étendu, mon vitiligo. Mais même dans le cas où j'aurais eu des résultats, il pouvait pas me certifier, en fait, que l'année suivante, j'allais pas voir réapparaître des taches blanches, en fait, quoi. Mmh. Donc moi, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis pas lancé dans un traitement. Après, voilà, moi, il était aussi peut-être plus facile à gérer mon vitiligo que pour d'autres personnes, parce que je suis blanc déjà à la base, et puis moi, il s'est rapidement étendu.
On a compris que c'était moins problématique. Je voudrais faire réagir le professeur Thierry Passeron. Thierry Passeron, qu'est-ce qu'on peut dire à Fabien?
Alors,
et sur l'efficacité des traitements, hein, notamment.
Alors,
au fil des ans.
Malgré tout, même il y a 15 ans, on avait des traitements. Alors malheureusement, ils sont pas toujours connus, mais ce traitement combiné, ça fait plus de 15 ans qu'on peut le proposer. L'autre point, c'est que il faut quand même dire aux auditeurs que tous les vitiligos ne vont pas arriver à une forme toute diffuse comme ce monsieur. Et l'autre point, c'est que, et ça c'est un point très important, c'est que lorsqu'on a des poussées très évolutives de vitiligo avec des dépigmentations très rapides, ce qui n'arrive pas chez tout le monde et pas tout le temps, on a des moyens aujourd'hui de bloquer cette évolutivité. Donc ça, c'est un point qui est important parce que, effectivement, comme je disais, c'est long à repigmenter. Il y a des zones qui sont plus faciles que d'autres à repigmenter. Et donc, il est plus simple de prévenir et de bloquer quand on a des poussées évolutives. Et puis, ce que disait monsieur à juste titre, c'est-à-dire que lorsqu'on a repigmenté une plaque, on a à peu près 40 à 50% de risque que cette dernière se redépigmente dans l'année qui suit. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on a réussi à repigmenter une fois, on arrivera, dans la très grande majorité des cas, à le repigmenter une autre fois. Et là aussi, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a des moyens aujourd'hui de diminuer le risque de récidive. Lorsque c'est le cas, on ne le prescrit pas à chaque fois, puisqu'il y a quand même plus d'une personne sur deux chez qui ne va pas se redépigmenter, mais on a des moyens de diminuer, on l'avait montré il y a quelques années, de diminuer le risque de récidive d'une fois sur deux à une fois sur dix à peu près. Donc ce n'est pas parfait, mais là aussi, on a quand même des solutions à apporter.
D'accord. Professeur, restez avec nous, on va remercier Fabien d'avoir témoigné au micro de RFI. Très bonne journée à vous, Fabien.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie et très bonne journée à vous. Bonne fin d'émission.
Eh ben, c'est gentil. Merci et bonne fin de journée en Charente-Maritime. Au revoir, Fabien. Professeur, le vitiligo peut-il survenir à n'importe quel moment ou est-ce qu'il y a des moments plus propices?
Alors, le vitiligo peut survenir à n'importe quel âge. C'est très rare de l'avoir dès la naissance. Lorsqu'on a des plaques blanches dès la naissance, ça peut être du vitiligo, mais il faut quand même évoquer d'autres maladies un peu plus rares. Mais ça peut survenir à n'importe quel âge. Il faut savoir qu'à peu près la moitié des vitiligos vont survenir avant l'âge de 20 ans. Mais on peut développer un vitiligo à n'importe quel âge. Et on a des personnes de 70, 80 ans qui peuvent développer des plaques de vitiligo.
Mais c'est ça, j'ai un auditeur qui nous écrit de Côte d'Otou qui nous demande pourquoi les personnes âgées développent de plus en plus le vitiligo. vertigo. Est-ce que ça, c'est un fait ou est-ce que c'est juste une impression de cet auditeur?
Alors, pas uniquement les personnes âgées, mais ce qui est clair, c'est qu'on avait une évaluation avant du pourcentage de vitiligo qui était dans le monde, hein, qui était de l'ordre de 0,5 à 1%, et maintenant on estime plutôt entre 1 et 2%. Donc il semble qu'il y ait une augmentation du nombre de personnes touchées, mais il faut être quand même prudent par rapport à ces statistiques, mais on tourne quand même avec 1 à 2% de la population mondiale, c'est quand même très important.
Oui, c'est beaucoup, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Pourquoi est-ce que les zones de frottement sont plus touchées ?
Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Koebner, qui se voit également dans d'autres maladies, comme le psoriasis. C'est le développement de lésions de vitiligo sur soit des zones de frottement, soit des cicatrices, en fait. Alors, c'est pas tout le temps, hein, c'est pas en permanence que sur une zone de frottement, il va y avoir un développement d'une tache de vitiligo, mais c'est effectivement un aspect possible, et c'est parce qu'en fait, les mélanocytes, hein, donc les cellules qui sont touchées, sont plus fragilisées, et à cet endroit-là, vont se décoller et faire des taches blanches. Donc c'est quelque chose qui est une des caractéristiques du vitiligo, de pouvoir se développer sur des zones de frottement. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, parce que moi j'ai vu des enfants qui avaient un vitiligo à qui on interdisait de faire du sport, de faire plein de choses, tout ça parce qu'ils avaient un vitiligo. Non, lorsqu'il y a une poussée évolutive de la maladie, là on met les traitements pour essayer de bloquer cette poussée, et effectivement là on fait un peu attention pendant la poussée, mais le reste du temps il faut que ces enfants puissent avoir une vie tout à fait normale.
Priorité Santé sur RFI.
Mais oui, vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons du vitiligo, une maladie auto-immune de la peau qui se manifeste par des taches de couleur ivoire sur le visage ou le corps. Et pour en parler, nous sommes toujours avec notre invité, le professeur Thierry Passeron, professeur de dermatologie dans le service de dermatologie du CHU de Nice et chef d'une équipe de recherche de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Professeur Thierry Passeron, l'évolution du vitiligo est imprévisible, il peut rester stable, s'étendre plus ou moins rapidement, voire régresser. Est-ce que cela complique la prise en charge ?
Oui, clairement. Et puis, c'est aussi compliqué pour les patients à qui on ne va pas pouvoir dire ben, votre vitiligo va rester localisé à cet endroit-là ou va s'étendre plus ou moins rapidement. Et aujourd'hui, même si on a fait beaucoup de progrès, comme je disais, dans la physiopathologie, dans la compréhension de la maladie, on n'a pas de moyen pour une prise de sang ou ce genre de choses de dire ben voilà, votre vitiligo, il va s'étendre rapidement ou pas. Cependant, il y a des moyens assez simples de déterminer si le vitiligo est actif ou pas. Lorsqu'on a des plaques avec des contours qui sont pas bien nets, lorsqu'on a ce qu'on appelle une dépigmentation en confetti, c'est-à-dire plein de petits points qui se développent, ça veut dire que le vitiligo, et bien sûr si on a l'apparition de plusieurs taches en même temps, ça veut dire que le vitiligo est en phase active, et là il faut consulter en urgence un dermatologue, parce que on peut bloquer ces poussées, et le traitement que l'on propose permet de bloquer les poussées dans plus de 90% des cas, donc c'est un traitement qui est quand même très efficace.
Alors reparlons justement des traitements, est-ce qu'ils sont différents selon les deux types de vitiligo, qu'ils soient segmentaires ou non segmentaires ?
Un petit peu, dans le sens où, dans tous les cas, le premier point, c'est effectivement de vérifier que le vitiligo n'est pas dans une phase active et de bloquer cette phase active. Pour bloquer la phase active, en fait, aujourd'hui, le traitement de référence, c'est ce qu'on appelle des mini-pulses de cortisone, c'est-à-dire des toutes petites doses de cortisone, deux fois par semaine pendant 3 à 6 mois, s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, avec d'autres maladies. Et on y associe volontiers des UV, une photothérapie UVB qui est faite en cabine, ou si les personnes n'ont pas accès à une cabine, au moins une exposition solaire qui va avoir un effet bénéfique non seulement pour bloquer mais aussi pour pimenter. Ça c'est lorsqu'on a des vitiligo actifs, et ensuite le traitement de référence dans les deux cas de vitiligo, c'est l'association de crème, soit de cortisone, soit de crème à base de tacrolimus ou de pimicrolimus, qui sont on va dire des équivalents de la cortisone sans avoir les effets secondaires de la cortisone, et associés encore une fois, et c'est très très important parce que les crèmes seules ne suffiront pas, associés à des expositions UV, qu'elle soit naturelle ou en cabine. La différence qu'il y a, c'est que en cas d'échec de cette première approche dans les vitiligos segmentaires, c'est alors une bonne indication de faire des traitements chirurgicaux, des greffes. On prend un petit peu de peau, par exemple, au niveau de la fesse, et on va pouvoir mettre les cellules pigmentées sur la zone qui est touchée par le vitiligo segmentaire. Et là, on a de très bons résultats, puisque ce sont des vitiligos qui sont un peu plus difficiles à traiter médicalement, mais qui sont par contre ensuite bien plus stables, et donc avec beaucoup moins de risques de redépigmenter.
Alors, on reparlera de la greffe, hein, évidemment, un peu plus tard dans cette émission, mais j'en reviens aux crèmes. Est-ce qu'elles permettent de repigmenter la peau ?
Oui, les crèmes seules marchent très
surtout
mal,
sur le visage, crèmes... c'est ça ? Ça marche surtout,
oui,
sur le visage ?
Si on associe la crème plus le soleil ou
les UV,
c'est indispensable. Ça, c'est vraiment un point qui est important. On arrive.
Mais même pour les zones plus difficiles, comme les extrémités, les articulations.
Non, justement. Pour le visage, on arrive dans 70 à 80% des cas. Sur les coudes, genoux, saillie osseuse, là, ça va être une fois sur trois, une fois sur quatre que l'on va obtenir. Je ne parle pas un début de repigmentation. Je parle d'une repigmentation complète ou quasi complète qui soit esthétiquement satisfaisante pour le patient. Par contre, là où c'est vraiment difficile, c'est sur les extrémités des mains et des pieds. On y arrive parfois, mais ça reste vraiment très très difficile. Donc pour schématiser, le visage très facile, les mains, les pieds très difficiles.
Alors on parle
Il faut entre 6 et 24 mois de traitement pour parvenir à ce résultat.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est des traitements longs, 6 à 24 mois. Est-ce que du coup ça ne décourage pas certains patients ? Est-ce que ce n'est pas un frein à la guérison finalement ?
Alors, c'est généralement les personnes qui consultent pour un vitiligo, on l'a dit, ont un impact très important sur leur qualité de vie et sont très motivées. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre le temps de leur expliquer que c'est long. Parce que si on leur donne la crème et éventuellement on leur dit vous allez au soleil, etc., mais les patients vont attendre peut-être d'avoir un résultat au bout de quelques semaines. Et lorsqu'au bout de 2 mois, par exemple, ils ne voient pas de signe de repigmentation, ben, il y a beaucoup d'entre eux qui vont se décourager en se disant ben, « ça marche pas ». En fait, il faut que lorsqu'on prescrit un traitement, le faire bien comme il faut pendant 6 mois et réévaluer avec cette fameuse lumière de Wood au bout de 6 mois. Et là, on voit s'il y a un début de repigmentation ou pas. S'il n'y en a pas, ben, dans ce cas-là, c'est que c'est résistant au traitement classique et on peut discuter, lorsque c'est possible, les traitements dans le cadre d'essais thérapeutiques. Lorsque, par contre, on voit qu'il y a des débuts de repigmentation, eh bien, on continue le traitement pendant encore 6, 12 ou 18 mois pour obtenir une repigmentation qui soit complète ou quasi complète, en sachant que parfois, sur le visage, on peut avoir une repigmentation complète en 6 mois.
Professeur Thierry Passeron, nos auditeurs ont également des questions à vous poser, des questions sous forme de notes vocales. Aïssatou nous a contactés depuis Dakar.
Bonjour Monsieur Strauss et bonjour à votre invité. Je m'appelle Aïssatou, j'ai 33 ans et j'habite à Dakar. J'ai un vitiligo qui est apparu en mars 2019. Je suis allée voir un dermatologue au bout de 7 mois pour confirmer le diagnostic et avoir un traitement. Il m'a prescrit la pommade Tacrose MG, mais aujourd'hui, il n'y a absolument aucun effet. Au début, c'était sur les doigts, mais maintenant, j'ai des taches sur le visage, notamment au niveau de l'œil droit, mais aussi sur la paume des mains, le cou, les jambes. Certaines taches ont disparu aujourd'hui. Sauf que j'ai peur que la maladie progresse. Pour le moment, les gens trouvent que c'est joli, mais je ne veux pas que ça empire. Parce que depuis une semaine, je me rends compte qu'il y a des petites taches qui apparaissent autour de la grosse tache que j'ai au niveau de l'œil et également sur le bras. J'aimerais savoir s'il y a des traitements efficaces pour stopper la progression ou est-ce irréversible.
Alors, professeur Thierry Passeron, qu'est-ce qu'on peut dire à Aïssatou ?
Alors, premièrement, la réponse est oui. Hein. Il y a des traitements efficaces pour bloquer la progression. Lorsque on est en phase active, ça a l'air d'être le cas de cette dame, puisqu'elle dit qu'elle a des nouvelles plaques qui apparaissent. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est l'association de ces mini-pulses de cortisone pendant 3 à 6 mois, s'il n'y a pas de contre-indication à côté, mais je pense qu'à 33 ans, elle ne devrait pas avoir de soucis. Et l'exposition, soit une exposition solaire, l'avantage, c'est qu'à Dakar, on va avoir une bonne exposition UV, ou des cabines UVB, et là, ça va pouvoir bloquer l'évolutivité dans plus de 90% des cas. Donc ça, c'est le premier point. Après la repigmentation, effectivement, cette dame décrit très bien que sur les mains, il n'y a pas eu de résultat, ce qui est assez peu surprenant. On arrive parfois, mais le plus souvent non. Par contre, sur le visage, il faut absolument le Tacrosem, qui est le Tacrolimus, c'est un des traitements de référence, notamment pour le visage. Il faut qu'elle en mette matin et soir avec une exposition solaire. Et normalement, sur le visage, ça devrait bien fonctionner, mais il faut qu'elle le fasse également sur les plaques du corps, corps, puisque sur le pack du corps, même si ça répond un peu moins bien que sur le visage, on a quand même des taux de réponse qui sont quand même très satisfaisants.
Alors toujours concernant les crèmes, on a Ghislain de Lomé au Togo qui vous demande si les crèmes Loïcide Pommade et Diprozone sont efficaces. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces crèmes, mais...
Alors, ce sont des crèmes à base de cortisone. Oui, ce sont des crèmes qui sont efficaces. On évite, dans la majorité des cas, de les utiliser trop sur le visage parce qu'on n'aime pas trop mettre de la cortisone pendant longtemps sur le visage. En tout cas, il ne faut pas en mettre sur les paupières, alors que la crème dont parlait la dame tout à l'heure, le tacrolimus, le tacrosem, peut se mettre et doit se mettre sur les paupières et sur le visage. On préfère utiliser les dermocorticoïdes sur le corps. Et il faut faire un traitement qui est plutôt ce qu'on appelle intermittent, c'est-à-dire que généralement on le met une fois par jour, 5 jours sur 7 hein, pour ce qui est de la cortisone, mais ces crèmes encore une fois, que ce soit les crèmes dont parle ce monsieur qui sont à base de cortisone ou le tacrolimus, ne sont efficaces que si on s'expose au soleil sans crème solaire jusqu'à ce qu'on ait un aspect rosé des plaques blanches. Il ne faut pas bien sûr aller jusqu'à la rougeur ou aux bulles, mais il faut que ce soit bien rosé, et c'est le signe qu'on est efficace. Et donc la crème seule non, mais la crème avec le soleil ou avec des UV, ça marchera. Il y a de bonnes chances que ça fonctionne, en tout cas.
Allez, une dernière question de nos éditeurs avec Patrick qui nous a contacté depuis Bingerville, c'est en Côte d'Ivoire.
Bonjour Igor, bonjour docteur. Je suis Patrick de Bingerville, Côte d'Ivoire. J'ai mon frère âgé de 34 ans qui souffre du vitiligo depuis environ 5 ans. Au départ, les taches étaient moins éparpillées sur son corps. Mais au fil du temps, cela s'est empiré. Il a maintenant, on va dire, des taches sur presque tout son corps et même sur le visage. Nous avons cherché un remède, mais ça a été en vain. Ma question est de savoir, est-ce qu'il peut guérir de cette maladie? Si oui, comment? Dans le cas contraire, comment faire pour pouvoir atténuer, je vais dire, les effets de cette maladie? Je vous remercie.
Professeur Thierry Passeron, on a envie de rassurer Patrick. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors, faut voir l'étendue des lésions, mais...
Oui, je vous demande, c'est pas des consultations téléphoniques, hein, je vous demande juste des conseils.
Oui, il faut voir l'étendue des lésions. On peut proposer les traitements classiques, mais surtout, comme je disais, maintenant, on a des traitements par voie générale qui sont en développement, qui vont cibler les mécanismes qui sont impliqués dans le vitiligo de façon beaucoup plus précise et que, justement, seront développés pour ce type de vitiligo un peu diffus. Après, il existe ce qu'on appelle des vitiligo universel où il y a quasiment plus que, enfin toute la peau est blanche, il n'y a que quelques petites zones qui restent encore pigmentées, et dans ce cas-là il est souvent plus simple en fait de dépigmenter ce qui reste. Ça se fait soit avec des crèmes qui vont dépigmenter la peau, soit avec du laser, et dans ce cas-là c'est, on va dire, relativement plus simple. S'il n'y a que quelques petites plaques quelques plaques brunes qui restent, c'est plus simple de détruire les dernières plaques non touchées.
C'est Priorité Santé sur RFI.
Priorité Santé sur RFI consacrée au vitiligo, une maladie de la peau qui se manifeste par des taches de couleur ivoire sur le visage ou le corps. Et nous accueillons à présent un deuxième invité, c'est le professeur Ousmane Faye, professeur de dermatologie à la faculté de médecine et d'odontostomatologie au Mali, directeur de l'hôpital de dermatologie de Bamako et ancien vice-doyen de la faculté de médecine. Professeur Ousmane Faye, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Première question, professeur Ousmane Faye, très simple. Est-ce que le vitiligo est une pathologie fréquente au Mali?
Alors, dit que c'est une pathologie fréquente au Niger, c'est beaucoup plus un défi pour le praticien exerçant en milieu tropical, c'est-à-dire en Afrique. À l'hôpital de dermatologie où nous exerçons, sa fréquence hospitalière est estimée à 0,7%. C'est-à-dire, les statistiques de l'année dernière montrent que sur environ 30 000 consultants, nous avons recensé 231 cas de vitiligo. En revanche, lorsque nous allons dans la population générale, nous avons des travaux de recherche antérieurs dans les années 2005 qui ont montré que la fréquence de cette pathologie à environ, on va dire, à 0,3% de la population. Il s'agissait bien entendu d'une population infantile, âgée de 0 à 15 ans, parce que cela c'est facilement examiné et c'est beaucoup plus facile.
On parlait tout à l'heure avec le professeur Thierry Passeron des problèmes de stigmatisation. Au Mali, est-ce que les patients atteints de vitiligo sont victimes de fausses croyances, comme le sont un peu les albinos, par exemple?
Oui, bien sûr, parce que tout ce qui... vous savez, la pigmentation de la peau sur le sujet noir est telle que, dès lors qu'il y a une tache claire sur la peau, le contraste est tellement important et que cela ne passe jamais inaperçu. Ça, disons, le regard des autres, ses pronostics esthétiques et surtout la crainte de la lèpre.
Qui est on croit que c'est de la lèpre, c'est ça tropicale.
Absolument, c'est la crainte de la lèpre, c'est en plein milieu, parce que le diagnostic le plus précoce... Le motif de constatation le plus précoce de la lèpre, c'est vraiment la tache claire. Et donc, devant un vitiligo, c'est d'abord la crainte de la lèpre, c'est également le pronostic esthétique et surtout le regard des autres qui font que les patients sont beaucoup plus gênés. Et s'agissant des interprétations, je veux dire, culturelles, socioculturelles, il y a beaucoup d'interprétations qui font que les patients sont véritablement affectés psychologiquement.
Mais qu'est-ce qu'il dit justement? Quelles sont ses croyances? Que disent les gens?
Alors, il existe beaucoup d'idées reçues qui ont tendance à assimiler comme des transgressions de certaines pratiques ou peut-être des pathologies internes. Vous savez, en Afrique, d'ailleurs, partout ailleurs, avoir une belle peau, c'est signe d'une bonne santé de l'âme. Donc, un patient, quelqu'un qui disait qu'il a un vitiligo, on pense qu'il a déjà une maladie, il est malade, même si physiquement, il n'en souffre pas. Donc, c'est déjà une stigmatisation. Et en plus, également, toutes les idées dessus dans la population générale, en milieu, on va dire, bambara, en milieu malinqué, et le rapprochement avec l'albinisme est facilement fait.
Et du coup, est-ce que les patients viennent vous voir facilement ou est-ce qu'ils se tairent, est-ce qu'ils se cachent?
Alors, c'est vraiment et véritablement un challenge des motifs fréquents de consultation chez nous. C'est assez nuancé. Il y a des patients qui viennent assez facilement, lorsque les lésions siègent sur les parties découvertes, comme le visage, les lèvres, parce que c'est très affichant, c'est très visible. Il y a d'autres, par contre, c'est à l'occasion de constatations qu'on arrive à découvrir ces lésions-là. Alors, ça répond à un véritable challenge parce que, disons, je disais tantôt, la ressemblance avec la lèvre, mais aussi le contraste de pigmentation, parce qu'une peau très noire avec une zone décolorée qui a tendance même à être une peau blanche, c'est très visible. Et c'est affectant psychologiquement. Et c'est également les difficultés thérapeutiques parce que les malades, avant de nous voir, ils sont déjà passés par les thérapies, ils sont passés par d'autres traitements, des recettes locales, et qui font que c'est véritablement un challenge pour nous.
Ça devient plus compliqué à soigner, du coup, le fait qu'ils aillent voir les thérapeutes et qu'ils prennent justement des produits traditionnels.
Absolument, c'est devient plus compliqué parce qu'ils entrent dans un cycle infernal. Quels que soient les conseils que nous allons les donner, quels que soient les traitements, ils ont tendance toujours à adopter les mêmes gestes. Ils vont mettre des feuilles de plantes séchées et brûlées avec de l'huile d'arachide, avec du beurre de karité. Ils ont tendance à mettre des pratiques aussi qui vont encore aggraver le stress oxydatif cellulaire et qui est de nature à aggraver la pathologie. Et surtout, les interférences de ces traitements traditionnels, ici, les pratiques, les croyances font que nos traitements médicaux, nous sommes généralement pas très satisfaits des résultats.
Est-ce que les... Parlez-nous justement de la prise en charge. Là, on parlait des tradithérapeutes avec l'utilisation de produits qui rendent la prise en charge plus difficile pour vous, médecins soignants. Est-ce que vous avez tous les moyens nécessaires, vous, au niveau de la prise en charge?
Alors, comme moyen de prise en charge, nous avons essentiellement les corticoïdes, les stéroïdes, les topiques. Hein, c'est ce que nous utilisons le plus souvent. Un traitement un peu alternatif sur quelques jours de façon à éviter, disons, les troubles trophiques. En dehors de ça, nous prescrivons de temps en temps les inhibiteurs de la calcinurine comme le tacrolimus, le pimecrolimus. Mais il faut savoir que ce sont des molécules qui sont assez chères pour les malades et surtout, la disponibilité n'est pas toujours garantie parce que ça ne fait pas partie des molécules essentielles et donc c'est importé de façon... vraiment rare par les pharmaciens et donc c'est pas dans le circuit normal de distribution et les malades ont du mal à s'en procurer. À côté de ces molécules, nous avons bien appris l'exposition solaire, hein. Nous conscients de l'exposition solaire n'est pas trop prolongée, mais du moins l'exposition solaire est un peu qui favorise de temps en temps, qui donne assez de bons résultats.
Eh bien écoutez, merci infiniment professeur Ousmane Faï. Je rappelle que vous êtes professeur de dermatologie à la faculté de médecine, directeur de l'hôpital de dermatologie de Bamako et ancien vice-doyen de la faculté de médecine. Professeur Thierry Passeron, brièvement un petit mot sur les enjeux de la recherche et de nouveaux traitements en développement. Qu'attendez-vous de ces nouveaux traitements ?
On attend beaucoup et on est très optimiste. Pourquoi ? Parce que on connaît vraiment mieux comment fonctionne le vitiligo, hein, on connaît vraiment les mécanismes, et grâce à ça, on a les premiers traitements qui vont cibler directement ces mécanismes. Et c'est pas pour demain, c'est déjà en cours, puisqu'on a déjà une crème hein, qui s'appelle ruxolitinib en topique, qui est actuellement en phase 3, c'est-à-dire la dernière phase avant, on espère, la commercialisation. Et donc, ça, c'est un premier progrès, avec malheureusement des résultats encore insuffisants, notamment sur des zones telles que les mains, mais c'est déjà un progrès avec une très bonne tolérance. Et puis des traitements par voie générale qui là aussi vont bientôt débuter dans le cadre du vitiligo et qui justement nous permettront de proposer ces traitements chez les personnes qui ont une atteinte un peu diffuse de vitiligo. Et puis dans un deuxième temps, on l'espère d'ici 2-3 ans, peut-être un peu avant, des traitements pour les zones très difficiles telles que les mains, les pieds, avec des traitements qui vont probablement stimuler la différenciation des bébés mélanocytes, en fait, de faire ressortir ces cellules souches et faire repimenter sur les zones difficiles telles que les mains et les pieds, qui restent vraiment les zones encore difficiles aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a beaucoup de produits et de en développement et des essais déjà en cours dans certains centres.
Allez, une dernière question très rapidement, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous avez souvent recours à la greffe ?
Alors, assez peu finalement, puisqu'il faut poser bien les indications, puisque comme on le disait avec votre premier auditeur, il peut y avoir des risques de redépigmentation dans le vitiligo classique, et les bonnes indications de la greffe, ce sont les vitiligos segmentaires après échec des traitements médicaux. Là, c'est une excellente indication, puisque on a des succès dans près de 80% des cas, et c'est stable. Et puis ensuite, dans les vitiligos très localisés et très stables, qui n'ont pas bougé depuis au moins un an, on peut évoquer une greffe en cas d'échec thérapeutique, mais dans le vitiligo classique, c'est vraiment ponctuel qu'on utilise la greffe, alors que pour le vitiligo segmentaire, c'est une aide très importante.
Merci infiniment, professeur Thierry Passeron, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur de dermatologie dans le service de dermatologie du CHU de Nice, dans le sud de la France, et chef d'une équipe de recherche de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Bonne journée à vous, professeur.
Merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé, suite et fin. On traverse à présent l'océan Atlantique, direction la Guyane, une région d'outre-mer, un petit bout de France en pleine Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname. Docteur Loïc Eppelboin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes infectiologue au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne. Vous étiez de garde le week-end des 13 et 14 juin quand la vague de Covid-19 est arrivée sur l'hôpital de Cayenne. Comment cela s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, docteur Eppelboin ?
Eh bien, ça faisait quelques jours qu'on voyait les prémices arriver. D'abord, plus de cas sur l'île de Cayenne rapportés un petit peu partout. Et puis, ces jours-là, et bien, tout d'un coup, c'est des patients sévères qui sont mis arrivés les uns après les autres aux urgences du centre hospitalier de Cayenne, avec des gens qui avaient besoin d'oxygène, de soins en urgence, le diagnostic du coronavirus en urgence. Et tout d'un coup, les urgences ont été remplies. Il a fallu faire de la place, ouvrir des lits supplémentaires en l'espace de quelques heures pour pouvoir accueillir tout le monde et prendre en charge tout le monde. Ça a été assez impressionnant.
Ça a été sportif, on imagine. Alors, vendredi dernier, la Guyane cumulait 3270 cas de Covid-19, soit un triplement en deux semaines du nombre de cas. Est-ce que cette recrudescence vous inquiète, docteur Eppelboin ?
Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, on est à plus de 4000 cas aujourd'hui. Il y a plus de 120 patients hospitalisés à l'heure actuelle dans toute la Guyane. Donc, bien sûr, ça nous inquiète. Ça nous inquiète pour les personnes les plus fragiles, mais aussi les plus précaires. Donc, oui, cette situation, elle est inquiétante.
Est-ce que vous avez tous les moyens pour bien prendre en charge des masques ? Vous avez assez de médecins, assez de tests ?
Alors, en ce qui concerne les masques, a priori, on a ce qu'il faut. On arrive un petit peu après la bataille par rapport à la métropole. Et donc, on a effectivement pu s'approvisionner comme il fallait. Au niveau des tests, on reste toujours un petit peu tendu. C'est-à-dire qu'on dépend d'avions qui maintenant ont été réduits à quelques-uns depuis la métropole. Donc même si on arrive à faire des séries de tests régulièrement, il y a encore des jours où certains laboratoires sont en carence de réactifs parce que ceux-ci ne sont pas arrivés. Voilà, et en termes de lits, ben, il y a des lits, mais sur les différents hôpitaux, on est obligé d'ouvrir de nouveaux lits pour prendre en charge ces patients Covid, mais parfois c'est un petit peu tendu parce qu'il y a aussi les autres patients qui restent malades, les autres maladies ne sont pas arrêtées pour autant. Et donc effectivement, au niveau des lits, des possibilités d'hospitalisation, ça reste très tendu. Mmh. On fait appel à d'autres structures, aux structures privées. Il y a une sorte d'hôpital de campagne qui s'est mis en place, qui pour l'instant cherche un peu sa place dans l'organisation. Mais oui, ça reste tendu en permanence.
Alors, le pic de l'épidémie est attendu pour mi-juillet. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ce pic ?
Eh ben, on s'y est préparé. Puis là, on est en plein dans la vague ascensionnelle. Donc, ben, oui, on est là et puis on fait de notre mieux. On est préparé. Oui, enfin, on s'y attend plus que les collègues de métropole qui l'ont vu arriver d'un coup. Et eux étaient probablement un peu moins préparés. Nous, on a vu ce qui se passait un petit peu avant. Donc, voilà, ben, on est là.
Parce que la particularité de la Guyane, c'est que vous êtes proche du Brésil, évidemment, avec un État voisin, l'Amapá, qui est très fortement touché par la pandémie. Et puis qu'en Guyane, on le sait, la faiblesse du système de soins est récurrent. C'est un problème, ça, non ?
Oui, clairement, c'est un petit peu comme partout. On l'a vu à l'occasion de l'explosion des cas en Île-de-France ou dans le Grand Est. Les hôpitaux sont de base en difficulté liées à certaines politiques de restrictions budgétaires, restrictions du personnel depuis des années. Donc forcément, à l'occasion d'une grave crise sanitaire comme celle-là, les choses deviennent encore plus criantes en termes de ressources humaines notamment.
Oui, mais docteur Épeloin, vous parlez des hôpitaux en métropole, mais le CHAR, hein, donc l'hôpital de Cayenne, on le savait, avait cristallisé toute la colère des citoyens lors de la crise en mars-avril 2017. Alors il y a eu la signature entre-temps des accords de Guyane, donc le 21 avril 2017, qui actait la fin du mouvement social. L'État français s'est engagé à verser 40 millions d'euros pour la modernisation de l'hôpital. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis 2017 pour vous ?
C'est difficile à dire. Forcément, quand on est dans le bain, quand on est dans le jus tous les jours, on a l'impression que les choses, elles avancent pas bien vite. Un certain nombre de projets avaient été, de projets, de promesses avaient été faites. C'est vrai qu'on a l'impression que les choses, elles vont, à l'échelle d'une vie humaine, c'est vrai que ça va vraiment tout doucement. On aimerait avoir plus de lits, plus de services, plus de moyens. Difficile à dire si les choses se sont améliorées. C'est vrai qu'au quotidien, on avait plutôt l'impression ces derniers temps que c'était pas mieux, voire pire. Il y a sûrement des indicateurs qui permettrait de le dire de façon plus précise, mais voilà, aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'il y a eu un progrès majeur et puis cette crise qui arrive par-dessus et qui facilite pas les choses.
Très rapidement, docteur Épeloin, on sait qu'en Guyane, avec le problème du mal logement, il y a de plus en plus de favelas à la française, on peut dire des bidonvilles où s'entassent parfois 4000, 5000 personnes. Je pense à des quartiers comme Source Baduel en plein cœur de Cayenne ou à Pistarzan. Alors dans ces quartiers, évidemment, on manque de tout, hein, d'eau et d'hygiène, la promiscuité rend la distanciation sociale impossible, le confinement est également problématique. Du coup, comment gérer ces quartiers d'habitat illicite, est-ce que ça risque pas de vous exploser la figure, ça ?
C'est tout à fait le risque. Il y a un problème à la fois chronique de ces quartiers où les gens sont dans des situations sociales, sanitaires de base assez délicates. Et puis là, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, sans compter qu'on a plusieurs épidémies qu'on lit en même temps. Vous avez parlé de l'épidémie de coronavirus. On a aussi la dengue qui explose depuis le début de l'année, qui touche aussi ces quartiers-là, parce que forcément la dengue, c'est les moustiques qui s'accumulent dans les gîtes, et donc il y a effectivement la dengue dans ces quartiers-là, la leptospirose qui est aussi une maladie, certes il y a moins de cas, on a identifié un peu moins de 20 cas depuis le début ces 2-3 dernières semaines, mais effectivement ils accumulent.
Il y a plein de pathologies qui s'accumulent. Ouais. Merci, je vous coupe, docteur Épeloin, c'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Cayenne. Je rappelle que vous êtes infectiologue au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne. Bonne journée à vous, docteur Épeloin.
Bonne journée, monsieur
Croce. Allez, c'est la fin de cette émission, préparée comme tous les jours par Assetoussamak et Ophélie, la scène à la technique et à la réalisation. C'était Didier Bleu et Raphaël Lazizi. Demain, le docteur Catherine Solano répondra à toutes vos questions, ou presque. À demain.
Santé avec les sociétés Suno Assurance, qui au Mali et en Centrafrique ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.